Noël Haussmann, nos auditeurs vous connaissent car vous êtes déjà venu dans nos studios il y a quelques années. Peut-on vous poser cette question, Noël Haussmann? Comment peut-on être religieux aujourd'hui, au XXIe siècle, que l'on soit habitant de l'Occident, d'Afrique ou d'un des cinq continents? Comment peut-on être religieux?
Alors, pour les cinq continents en général, je n'ai pas beaucoup de réponses générales, parce que la vie religieuse est toujours d'une manière ou d'une autre un cas particulier. On devient religieux, religieuse dans tel institut, pour tel genre de vie. Mais je sais bien que dans nos pays, ça devient complètement impensable de consacrer, quand on est jeune, sa vie à Dieu seul, au Christ, dans le célibat, pour toujours, dans une forme de vie qui ressemble à tout, sauf aux grandes valeurs de la culture.
Quand vous dites impensable, à quoi vous pensez?
Alors je veux dire que ça devient difficile à expliquer. Donc je pense que du côté chrétien, on est de moins en moins propice à la rationalisation, disons comme ça, de la vie consacrée, comme d'ailleurs de la fidélité conjugale. On ne sait plus que le mariage, c'est épouser quelqu'un, toujours le même et pour toujours, et dans le but de transmettre la vie qu'on a reçue, etc. Dans la vie religieuse, c'est pareil. On ne comprend plus, on comprend moins encore que ça ait du sens pour un jeune de s'engager pour l'invisible. Parce que nous n'avons plus dans nos pays, surtout occidentaux, nous n'avons plus beaucoup la foi dans le fait que le Christ peut à lui seul rendre heureux une personne déterminée. Parce qu'il l'a décidé ainsi. En fait, on ne décide pas d'être religieux, on consent à répondre à un appel intérieur, qui parfois est de portée depuis longtemps, depuis l'enfance, c'est vrai, parce que le contexte y a encouragé, mais parfois surgit de nulle part. Et qui donc va aujourd'hui interdire à Dieu de parler cœur à cœur à quelqu'un pour lui dire « je t'appelle à moi » pour être heureux en cette vie et rendre aussi, par ton célibat, les autres heureux.
Alors, quels sont les défis aujourd'hui? Quels sont les points d'accroche, mais aussi les points positifs?
Alors, les points d'accroche, c'est la vie est longue et plus personne ne croit, parce que nous avons perdu la grande confiance que nos ancêtres avaient en Dieu et en sa providence. Plus personne ne croit qu'il est capable à lui seul d'être fidèle pour toute la vie. Mais on n'a jamais été capable d'être à soi seul fidèle pour toute la vie. On est juste capable de consentir à la fidélité d'un autre. La vie est longue, les occasions de changer d'état de vie sont nombreuses aujourd'hui. Comme la vie est longue, on veut essayer tout. Les états de vie un peu religieux, 10-15 ans, et puis après 10-15 ans marié, après 10-15 ans marié avec quelqu'un d'autre. Enfin, c'est un peu la mode aujourd'hui, on le sait bien, que nous sommes versatiles plus que jamais. D'autre part, la vie communautaire, qui fait quand même partie de l'essence de la vie religieuse elle-même, la vie en commun est réputée extrêmement difficile, puisque nous sommes tous individualistes. Comment entrer dans une forme de vie où, au moment où vous avez votre travail, votre véhicule, votre ordinateur, enfin tout votre petit style de vie, célibataire par exemple. Et puis un beau jour, on vous dit que la grande tradition chrétienne, c'est de mettre tout en commun. Et donc il faut réapprendre à vivre ensemble à un rythme qui n'est pas le vôtre, à vous lever à une heure qui n'est pas peut-être la vôtre, à prier à des heures déterminées. Tout ce genre de socialisation nous a un peu échappé à nous en Occident, nous qui vivons chacun dans notre rythme. Donc il faut vraiment se laisser réengendrer d'en haut à la vie communautaire qui fait aussi partie de l'essentiel de la vie chrétienne proprement dite. Donc il y a une sorte de réévangélisation des profondeurs qui doit se faire. Et pour les questions d'affectivité, et pour les questions de vie en commun, et pour d'autres questions aussi, qui sont par exemple dans ma forme de vie, à moi qui est la vie religieuse apostolique, pour le travail à mener en commun. Et ce n'est pas si évident que ça de ne pas être le seul à décider de ses actions et de ses passions, pour le dire d'un mot, et d'entrer dans un dynamisme qui est déjà institué, dans lequel vous avez à apporter votre propre pierre, mais ce n'est pas vous qui avez fait les plans. Ce n'est pas vous non plus qui allez être le seul bâtisseur de la maison. Donc tout ça sont des choses extrêmement difficiles, mais qui ne sont que des difficultés visibles. En fait, derrière ça, il y a autre chose de plus profond. Comment peut-on engager sa liberté dans les libertés divines? Comment peut-on être rendu à Dieu dès cette vie et pour toujours comme un principe de bonheur, de joie et, comme je l'ai dit, de partage? Voilà la question.
Comment est-ce que vous répondez à cette question? Comment être religieux en Afrique? Vous connaissez aussi l'Afrique, vous connaissez aussi d'autres continents. Est-ce que les points de vue sont les mêmes?
Ah non, pas tout à fait. Je reviens d'Afrique centrale et on a longtemps dit, n'est-ce pas, que dans ces cultures, la vie tribale, la vie de caste, etc., était à l'inverse de ce qui se passe dans nos pays occidentaux, était presque par elle-même un inconvénient. Parce que comme tout est déjà est commun, c'est plutôt la place de l'individu qui était difficile à trouver. Mais nous sentons aujourd'hui, d'année en année, que l'individualisme aussi monte dans ces cultures, en raison de la mondialisation des images et des anthropologies, donc, et même des économies. Donc là, on sent que ce qui était en réalité une vraie richesse culturelle de l'Afrique centrale, par exemple, eh bien, devient aujourd'hui menacée à cause de la mondialisation des valeurs. Oui. Ce qui est difficile, c'est de trouver, dans toutes les cultures, c'est de trouver l'équilibre entre la personne et la communauté. Et quand on est trop d'un côté, comme nous en Occident, c'est difficile de trouver la communauté. Mais quand on est, comme en Afrique, trop du côté de la communauté, c'est difficile de comprendre les engagements tout à fait irréductibles de la personne, qui n'est pas seulement au service de son clan, qui n'entre pas dans la vie religieuse seulement pour enrichir son groupe, mais qui est là parce qu'elle a une valeur unique devant Dieu seul.
On a dit, on dit encore, que la vie religieuse est par essence prophétique.
Alors, quant au prophétisme, la vie religieuse, c'est surtout une réalité difficile à montrer. Parce que mon sentiment, c'est qu'en Occident, le prophétisme, la vie religieuse, il apparaît à peu de monde. Il a été clair que les grandes abbesses du Moyen-Âge, les béguines quand elles se sont associées, les congrégations à supérieur général ont représenté des formes historiques d'émancipation de la femme, par exemple, tout à fait éclatantes aux yeux de tout le monde. Mais aujourd'hui, il devient difficile de considérer que cette forme de vie si instituée soit encore prophétique autrement que ce qui reste complètement incompris aujourd'hui, c'est précisément, je l'ai dit, le célibat. Alors, il y a des grands défis qui ne sont pas relevés aujourd'hui. C'est par exemple le défi que la Providence nous a donné, nous a confié, de faire vivre ensemble de nombreuses générations de personnes âgées avec de très petite classe d'âge de personnes jeunes. C'est tout à fait typique, prophétique, là, de ce qu'est exactement notre culture. Beaucoup de vieux, peu de jeunes. Comment est-ce que la vie religieuse va réussir à faire vivre ensemble ces deux groupes qui semblent si différents? Là, il y aurait, je pense, pour elle, un défi où elle pourrait réussir, où elle réussit déjà en partie, il me semble, à montrer que ce n'est pas en parquant les vieux tous ensemble qu'on réussira quelque chose d'humain.
Qu'est-ce qu'on peut dire de ce féminisme chrétien? Est-ce que l'Église aujourd'hui serait ce qu'elle est si la femme n'avait pas parcouru par différentes figures ces 20 siècles?
Puis dès l'Ancien Testament, on voit bien que le rôle des femmes est insubstituable. Depuis la Genèse, on sait que l'homme et la femme sont égaux en dignité, mais pas identiques, et que leurs rôles sont différents. Et c'est dans la complémentarité de leurs rôles qu'ils sont l'un pour l'autre, comme a dit Jean-Paul II, n'est-ce pas ? À la femme, Dieu a confié l'homme, et à l'homme, Dieu a confié la femme. Et c'est ainsi depuis notre tradition juive, disons, mais dans le Nouveau Testament, ça éclate aussi à toutes les lignes. On voit bien qu'autour du Christ, les figures des femmes sont nombreuses. On se rappelle évidemment des femmes à la Passion et à la Résurrection. On sait bien que l'Église primitive se réunissait dans les maisons des femmes. Donc il y a là aussi une façon de raconter l'histoire qui est un peu trop dominée par l'idée que tout s'est fait du côté hiérarchique, alors que la hiérarchie ou le sacerdoce n'ont jamais représenté qu'un tout petit pourcentage des chrétiens. Si on ne veut pas parler de féminisme chrétien, parce que certains disent que c'est un oxymore de parler de féminisme chrétien, alors il faut enlever de l'histoire toutes les grandes abbesses, Jeanne d'Arc, Geneviève de Paris, Hildegarde de Bingen, les missionnaires du XVIe siècle, les supérieurs générales du XIXe siècle qui ont constitué vraiment une forme d'émergence du féminisme, ce qu'il y avait de plus avancé à l'époque, au moins dans l'Église. Mais les femmes ne sont pas là-dessus intransigeantes. Elles savent que sans elles, les hommes ne peuvent pas être ce qu'ils sont.